Bonsoir à vous sur le 884. Ce soir, les teams de Ça fait boom et du Gang des gazières vous proposent d'écouter l'émission Pour une alliance transféministe contre les TERF, qui a été faite en novembre dernier par l'équipe de Comme un ouragan, une émission féministe diffusée sur Radio Dio à Saint-Étienne. Les TERF, ce sont les féministes radicales qui excluent les personnes trans des luttes féministes. En ce moment, leurs discours prennent de plus en plus de place dans les médias, y compris les nôtres. Alors ça nous paraît important de comprendre comment se fabriquent ces discours de haine pour pouvoir mieux les affronter et les défaire. Pour une révolution transféministe. Bonne écoute!
Ça fait boum boum.
Ça fait boum.
Ça fait boum boum boum.
Ça fait boum boum boum.
Boum 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 boum. Ça fait boum.
Ça fait boum boum.
Non, qu'est-ce qu'on dit ça?
Ça fait boum.
Ça fait boum. Ça fait boum boum boum.
Oh yeah!
Boum.
Une mardi sur
2
à 21h et aussi sur
radiorageuse.net.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Comme un ouragan sur Radio Dio 89.5. Et ce soir, on va vous parler des TERF, les Trans Exclusionary Radical Feminists, les féministes radicales qui excluent les trans. Ce terme, c'est pas un nom qu'elles se sont choisies, mais qui leur a été donné. À titre personnel, je dois avouer que je leur préfère le nom de FART, qui signifie que ce sont des personnes qui s'approprient les rhétoriques féministes au service de la transphobie. Et puis FART, pour les personnes qui ne le savent pas, ça veut dire prout en anglais. Et ces personnes, pour moi, c'est un peu comme des proutes. Elles arrivent quand on les attend, mais aussi quand on les attend pas. Après leur passage, ça pue pendant longtemps derrière. Comme les proutes, à des moments on en rigole, à d'autres ça met mal à l'aise, et encore à d'autres moments ça nous pourrit la vie. Elles ont, en tout cas, bien réussi à me pourrir la mienne à plein de moments différents. Je pense qu'elles ont retardé ma transition d'une bonne année parce que je suis tombé sur leurs articles en premier quand j'étais perdu et que j'essayais de trouver des infos sur les meufs trans pour essayer de comprendre si j'en étais une ou pas. Et avec le peu de réflexion féministe que j'avais à cette époque, mais avec une volonté de l'être, leurs arguments m'ont bien fait intégrer que si je transitionnais, je ne pourrais pas l'être féministe puisque j'allais, pour la faire courte, devenir un cliché antiféministe. Bon, j'ai quand même réussi à transitionner. Heureusement que mon chemin a croisé celui d'une copine féministe. Le fait est que ces proutes n'ont pas juste retardé ma transition ou celle de nombreuses adelfes trans, mais qu'elles répandent leur odeur nauséabonde un peu continuellement avec des moments où ça s'intensifie sévèrement. Et je dois avouer que c'est assez facile de sombrer dans la panique. Pour ma part, cet été, elles m'ont débordé. Plusieurs d'entre elles ont écrit des tribunes d'étalages de mères de transphobes. Elles ont essayé d'interpeller la première ministre. Certaines ont rencontré deux députés de La République En Marche. Elles ont pris vraiment beaucoup, beaucoup de place médiatiquement en expliquant que les gens comme moi ne devraient pas exister ou alors devraient être psychiatrisés ou encore qu'on serait des personnes dangereuses. Je dois avouer que c'est assez mal passé chez moi. Je pense que j'ai paniqué, ayant envie de réagir mais ne sachant pas trop comment faire. J'ai essayé avec un ami de faire une vidéo explicative qui n'a pas fonctionné pour l'instant et j'espère qu'elle y arrivera mieux sans moi. Avec ce même ami, on a essayé d'écrire une réaction à un texte rempli de proutes bien puants, mais je n'ai pas réussi à faire un texte cohérent alors que je prends d'habitude plaisir à écrire et à expliquer. Dans cette période, toute mon énergie a été absorbée par les TERFs, en traversant plein d'états différents. La panique a précédé le découragement qui a engendré de la colère, qui a à nouveau provoqué du découragement, le tout recouvert d'une belle couche de honte de moi, de doute sur ma transition, de doute sur le sens que je donne à tout ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie. En fait, elles m'ont complètement pourri la vie pendant plusieurs mois, et je ne pense pas être la seule. Du coup, on va parler de ces TERFs aujourd'hui, de ces proutes nauséabonds, et surtout, on va essayer de rationaliser au mieux, de comprendre qui elles sont, quel est leur argumentaire et, on espère, donner des outils pour ne pas céder à la panique et ne plus être vulnérable face à elles. Voilà, une émission bien légère en perspective.
En me voyant, je sais ce que vous vous dites. Que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. Je n'ai qu'un seul programme. Ce soir, c'est de tout faire pour vous plaire. Cherchez, cherchez la femme. Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air. Quand un cycliste perd les pédales,
forcément ça fait un scandale.
Quand un jockey n'est plus dans la course,
on se dit des membres de ressources.
Quand un coiffeur boucle ses valises,
on doit faire sa psychanalyse.
Quand un pompier a le feu quelque part,
on s'étonne d'un événement aussi bizarre.
Cherchez, cherchez la femme. Son charme est dangereux, oui messieurs. Partout, dans tous les drames. Toujours c'est une femme qui mène le jeu. Elle a tout un programme. De trucs qui rendent fou, méfiez-vous. Cherchez, cherchez la femme. C'est elle uniquement la cause de tout. C'est pas mal comme programme.
C'est là notre souci, Dieu merci.
Et notre joie aussi.
On perd des kilogrammes.
Ce n'est pas un drame.
Cherche,
et même ceux qui nous blâment, un jour change d'avis, c'est la
et
vie. Cherchez, cherchez la femme. Et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, vous en serez ravis.
Et on vient d'écouter Coccinelle avec Chercher la femme. Coccinelle, c'était une des premières meufs trans à être médiatisée en France. Du coup, elle était super.
Et alors, pour dire comment on a pensé cette émission, on s'est dit on va faire un petit expériment, une autodéfense collective, de passer par l'émotionnel que toi tu as dit dans l'intro, qu'est-ce qui s'est passé pour toi émotionnellement. Et alors, deuxième step finalement, c'était un peu parler, discuter, que plutôt nous on a fait beaucoup entre nous pour cette prépa de l'émission. S'informer pour comprendre, ça veut dire en fait c'est qui, c'est quoi le discours politique derrière, un peu je veux dire dévoiler ou aussi démonter leurs arguments, et après réfléchir ensemble à des réactions possibles pour plutôt sortir avec du force et pas de se faire abattre comme ça. Alors on va commencer avec une petit bloc historique pour comprendre mieux.
Ouais, voilà, on va commencer cette session d'autodéfense contre les TERF par une petite mise en perspective historique. Parce que on trouve ça important pour pas être démunis face aux TERF, pour pas être mis à terre par nos émotions, de d'abord comprendre qui c'est, essayer de voir qui parle, d'où, depuis quand et dans quelles conditions matérielles. Donc voilà, on se lance, on fait une petite histoire des TERF. Donc l'offensive TERF, elle commence dans les années 1970 aux États-Unis et dans les milieux radicaux, féministes, séparatistes, lesbiens, avec une féministe de ce milieu qui s'appelle Janice Raymond. Elle s'en prend, Janice Raymond, à Sandy Stone, qui est une meuf trans ingé son chez Olivia Records, une maison de production de disques féministes des milieux rad-femmes lesbiens. Et Janice Raymond publie un pamphlet contre la présence de Sandy Stone chez Olivia Records, alors que Janice Raymond ne faisait pas partie du tout de ce collectif. Et donc, elle publie un pamphlet qui est très, très médiatisé, qui circule beaucoup, et qui crée, au passage une image caricaturale de la femme trans. Elle prend très à cœur sa mission transphobe, puisqu'elle s'attaque pas seulement à Sandy Stone, mais aussi à d'autres meufs trans, dont la présence dans les milieux rad-femmes ne posait pas de questions jusque-là. Elle gagne de l'influence, et des campagnes de harcèlement s'en suivent, des menaces de mort et une quasi-guerre où des coups de feu sont échangés entre les agresseureuses des personnes trans et les personnes qui s'organisent pour les défendre. C'est intense, il y a des festivals où les meufs trans sont explicitement exclues et des contre-festivals qui s'organisent où les TERF sont exclus. En 1979, Janice Raymond, toujours elle, qui est celle qui avait lancé l'offensive, elle écrit le livre de référence des TERF pour des décennies, qui s'appelle « The Transsexual Empire, The Making of the She-Male ». Et finalement, le degré de violence est tel que les personnes trans et leurs alliés se mettent en danger physique. Et petit à petit, les personnes trans se retirent des milieux féministes. Ensuite, au début des années 2000, les personnes trans redeviennent quelque peu visibles, notamment grâce au féminisme intersectionnel et à la dite troisième vague du féminisme. Elles exigent des droits, on les entend plus. S'ensuit donc la nouvelle offensive des TERF, surtout aux États-Unis et encore plus en Grande-Bretagne, qui devient le haut lieu du TERFisme. Cette fois-ci, les TERF elles sortent des milieux séparatistes lesbiens, et plutôt on les retrouve dans le féminisme mainstream. De nouveaux termes apparaissent. C'est à ce moment-là, en 2008, que le terme TERF apparaît, là où elles-mêmes se nomment les gender critical, c'est-à-dire critiques du genre, ce qui leur fait une jolie couverture pour prétendre défendre un point de vue strictement théorique. C'est dans cette période notamment que l'on peut voir les liens qui se développent entre les TERF et les milieux conservateurs de l'extrême droite et extrême droite. Pour donner un exemple, il y a la fondation états-unienne qui s'appelle Heritage Foundation, une fondation de cathos conservateurs d'extrême droite qui donne vraiment beaucoup, beaucoup d'argent aux collectifs et associations TERF qui se montent. Ils donnent surtout des sous aux associations en Grande-Bretagne comme Women for Women UK et la LGB Alliance. Donc en fait, par cette alliance avec les conservateurs, les TERF profitent aussi d'une belle rentrée d'argent et... Ouais, pour l'anecdote pas si anecdotique, un vieux transphobe a tranquillement financé à hauteur de 20 000 livres une campagne de pub I Love JKR, donc J.K. Rowling, en soutien à l'autrice de Harry Potter ouvertement transphobe. Et en France, l'histoire des TERF comme mouvement, elle est plus récente. C'est surtout après 2014, en post-manif pour tous, que les milieux conservateurs, d'extrême droite et religieux font beaucoup de bruit et entretiennent une homophobie et une transphobie ambiante. Il y a l'introduction de l'ABCD de l'égalité, donc un programme dans l'éducation nationale pour lutter contre les discriminations de genre, qui fait polémique et les conservateurs retirent leurs enfants des écoles sous prétexte de propagande de la théorie du genre. La théorie du genre, c'est une expression inventée par le Vatican en 2004 pour insérer son vocabulaire dans le débat. Ensuite, on fait un petit saut dans les années et entre 2020 et 2022, on a deux nouvelles figures du TERFisme qui émergent en France, Marguerite Stern puis Dora Mouto. Celles-ci, bien qu'apparemment rad-femme, donc radicale féministe pour Marguerite Stern jusqu'à récemment, ont des liens bien prononcés avec les milieux conservateurs et d'extrême droite. ça vaut le coup de donner un petit aperçu précis de ces deux nouvelles figures bien médiatisées. Marguerite Stern, c'est une ancienne fémène qui a fondé le mouvement de collage féministe en 2019 et qui en a été exclue en 2020 à cause de ses propos transphobes. Elle signe depuis plusieurs tribunes transphobes et elle flirte avec l'extrême droite, comme par exemple en discutant régulièrement avec un certain Julien Rochdy, qu'elle nomme Juju, qui a dirigé le Front National de la Jeunesse et propose des formations masculinistes. Dora Mouto, de son côté, a un compte Instagram axé sur le développement personnel féministe qui parle du plaisir sexuel dans le cadre hétérosexuel. Elle se dit féministe, mais elle n'hésite pas à critiquer la contraception, une excision selon elle. Elle relaie des personnes complotistes qui tiennent des propos hallucinants sur le prétendu lobby LGBT et d'autres qui sont ouvertement masculinistes. Ces deux figures de proue du terfisme créent des polémiques très médiatisées, comme cet été lorsqu'elles s'insurgent de la campagne de sensibilisation du planning familial, qui représente un homme enceint. Elles publient leur tribune dans Marianne, leurs idées sont relayées sur Sud Radio, Valeurs Actuelles, Le Figaro et Europe 1. On le voit, leur appareil médiatique est bien ancré à droite, voire à l'extrême droite. Leur féminisme est donc dur à défendre, et ça tombe bien, parce qu'en octobre 2022, donc très récemment, elles ont abandonné leur étiquette de féministe pour fonder un mouvement qui a l'air très fun, ça s'appelle les femélistes. Dora Mouto et Marguerite Stern ne travaillent pas seulement avec le soutien de tout un appareil médiatique. Elles collaborent notamment avec deux associations transphobes fraîchement constituées en 2021. D'un côté, il y a Hippomony, qui se constitue pour lutter pour que les thérapies de conversion soient interdites dans la loi seulement pour les LGB et pas pour les T. C'est un combat que l'asso mène aux côtés de Dora Mouto. Et l'autre collectif qui marque le paysage politique en France, c'est l'Observatoire de la Petite Sirène. Alors, c'est un collectif pluridisciplinaire franco-belge de professionnels, praticiens et chercheurs qui effectuent un lobbying dans le but d'interdire toute transition médicale aux mineurs trans. Ces membres ne sont pas isolés et ne sont pas sans influence sur le reste des institutions qui travaillent sur les questions de discrimination de genre. Par exemple, un membre du comité scientifique de l'Observatoire était président de la DILCRA, c'est-à-dire la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Cela a entraîné la démission de Karine Espinera, théoricienne transféministe et sociologue, avant que le président de la DICRA ne démissionne du comité scientifique de l'Observatoire en prenant très clairement ses distances. Et je cite, il a qualifié l'Observatoire de lobby groupusculaire voué à soutenir et diffuser la transphobie la plus crasse sous un douteux vernis scientifique et dont les liens avec l'extrême droite catholique sont bien établis. Et voilà, donc Mediapart montre également que ces deux associations, donc l'Observatoire de la Petite Sirène et Hippomony, sont constituées du même réseau que celui de la Manif pour tous. Donc pour finir, on voit que là, il y a des dispositifs très concrets en termes de sous, de médias, de réseaux de personnes qui rapprochent les TERF médiatisés actuels de l'extrême droite conservatrice et complotiste et qui les éloignent du féminisme dans le même temps. Et au-delà de cela, il y a aussi tout un outillage d'argumentation que les TERF utilisent qui provient directement de cette droite proute.
C'est proute, ce mouvement TERF dont on parle. Il n'entretient pas juste des liens avec l'extrême droite et les complotistes, mais il utilise aussi les mêmes outils dans leur rhétorique, et notamment le confusionnisme et l'appel à la nature. Entre autres, il y en a d'autres, mais on va parler de cela. L'appel à la nature, c'est un fonctionnement assez basique, mais qui en ce moment marche plutôt bien avec la prise de conscience un peu généralisée de la crise écologique, qui consiste à dire que ce qui est « naturel » entre guillemets est « bien », entre guillemets, tandis que tout ce qui n'est pas naturel ne l'est pas. Cet outil est par exemple utilisé pour justifier l'interdiction de l'IVG. Il a été utilisé par la Manif pour tous pour s'opposer au mariage, à l'adoption et à l'accès à la PMA, pour ne citer que ces exemples. Mais ils sont malheureusement nombreux, les exemples qu'on pourrait citer. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin pour voir l'extrême droite s'emparer de cet argument pour justifier les pires horreurs. Le confusionnisme, lui, comme son nom l'indique, est un outil qui consiste à entretenir la confusion dans les esprits. Il se décline en plusieurs stratégies complémentaires que je vais expliquer en partie. Pareil, il y a plein d'outils, j'en ai expliqué que quelques-uns. Une première stratégie consiste à jouer sur l'urgence et la menace. Pour les transphobes, par exemple, ça va être de jouer sur la menace qu'on représente pour la société parce qu'on voudrait pousser les gens à transitionner. Attention, le lobby trans. Et c'est urgent parce qu'on est de plus en plus nombreux. Cette stratégie est aussi utilisée quand on entend parler du grand remplacement, par exemple, une autre belle invention de merde de l'extrême droite. Une autre méthode dans ces outils du confusionnisme consiste à donner la sensation que sa communauté, d'autant plus quand elle est déjà minorisée, est en train de se faire envahir ou détruire. C'est une méthode pratique puisqu'elle permet de ne pas donner de chiffres pour appuyer ses propos. Les TERF, elles jouent vraiment là-dessus, sur l'impression d'envahissement des milieux féministes par les méchants hommes transidentifiés qui seraient en fait le patriarcat qui s'immisce dans ces espaces. C'est une méthode similaire à l'homonationalisme, par exemple, où pour une fois que les droits LGBTQIA+ peuvent servir à l'extrême droite, ils sont utilisés pour justifier un racisme fort, puisque les personnes qui ne sont pas blanches seraient forcément homophobes et donc dangereuses pour cette communauté déjà si minorisée. Et aussi utiliser l'impression de contagion sociale avec tout le champ lexical de l'épidémie. En plus, ça tombe super bien puisqu'on est en train d'en sortir d'une, qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et par exemple, l'idéologie trans serait en train de se propager. Elle gangrène notre société. Donc ça, c'est les propos trouvés chez les transphobes. Et il faut donc combattre cette idéologie. Il faut l'éradiquer. Ça vous rappelle rien ? Une grande partie des théories TERF sont aussi basées sur des faux chiffres, des fausses études et la création de mythes. Par exemple, autour de l'âge auquel on aurait accès aux transitions hormonales, chirurgicales, où elles inventent complètement des opérations sur des personnes mineures, par exemple. Elles inventent aussi l'accès à des hormones très tôt chez les enfants, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on expliquera plus tard. Elles inventent aussi qu'il y aurait par exemple plus d'hommes trans que de femmes trans en expliquant un mensonge avec une théorie toute pétée de misogynie intériorisée et que c'est de la faute d'une société patriarcale s'il y a autant d'hommes trans. Voilà, toutes les théories complotistes sont basées sur cette stratégie d'inventer une réalité pour emmener un auditoire là où l'on souhaite l'amener. C'est pas nouveau et pas du tout spécifique au TERF. Enfin, je vais finir là-dessus, même si j'ai clairement pas fait une liste exhaustive. Il y a le fait de s'emparer d'une minorité, donc un des outils en plus, il y a le fait de s'emparer d'une minorité à qui ça nuirait, entre guillemets, pour justifier des propos transphobes. Par exemple, se servir des personnes qui détransitionnent, leur prendre leur histoire et la déformer pour justifier la transphobie. Ou parler des enfants qui seraient manipulés par cette idéologie du genre, qui risquent de faire des opérations mutilatoires, qui elles regretteraient après, etc. De la même manière que les anti-vax utilisent les personnes qui ont eu des complications suite à un vaccin pour justifier de lutter contre. Ou encore nos chers amis de la Manif pour tous qui se servent des enfants sans les consulter pour justifier leur homophobie. Si je viens de raconter tout ça, on pourrait y passer des heures et des heures, mais c'est juste pour montrer que les TERF dont on vient de parler, elles font pas exception aux autres mouvements d'extrême droite. Même si elles s'en défendent, en plus de côtoyer et d'être supportées par des personnes clairement identifiées à l'extrême droite, elles utilisent aussi les mêmes outils et procédés rhétoriques.
Et bah en tout cas, merci pour ce temps d'explication que je trouve super clair et qui apporte plein de trucs à la réflexion et que moi je trouve en tout cas que ça vient vraiment bien alimenter là ce temps d'autodéfense collective, de vraiment prendre ce temps là de capter les alliances, capter les mécanismes, qu'en fait c'est des choses qu'on connaît et que du coup si on connaît on sait aussi comment combattre, etc.
On va essayer de s'écouter une petite musique
et on va écouter Shea Diamond, Don't Shoot.
Your business, but I seen some shit. Got snatched up by my mom when I was 6. I can still smell the smoke as the bullet missed. That's a lot for a kid. Had enough when I was 14. I ran away so I can foster my dreams, but I didn't have the knowledge. The streets was too much. Mama just taught me I wasn't enough.
You say, so you live it up. Hard days, you never seen them love. I'm not saying I'm the only one, but damn, some days I don't feel like.
Hands up, please don't shoot. They say that you love it if your mouth stay mute. They say they don't see color, but the blood stain shows the proof.
Tell
woke me up when I was 19. There goes my 20s and there goes my dreams. Put me on the island, said, sacrifice the queen. That's a lot, 14. Cried so much when I was released. Kissed the grass up under my feet. Modern slavery tried to get the best of me. That's a lot for anybody.
You're a slave, so you live it up. Hard days, you never seen them love. I'm not saying I'm the only one, but damn, some days only feel like it.
Vous êtes toujours en direct dans Comme un ouragan 89.5 sur Radio Dio. Et on vient d'entendre tous les liens qu'il peut y avoir entre certains mouvements TERF et l'extrême droite. Mais on aurait tort de penser que toutes les TERF sont de droite. Certaines d'entre elles sont des féministes de gauche, voire même d'extrême gauche. Elles se présentent souvent comme gender critical, ou critiques de la notion de genre en français, et prônent un féminisme radical matérialiste, qui reconnaît la réalité matérielle du sexe. Leur cheval de bataille a, elle aussi, l'exclusion des femmes trans dans les espaces réservés aux femmes, toilettes, prisons, centres pour femmes, victimes de violences, etc. Sous prétexte de protéger les femmes, mais aussi depuis un moment, le combat contre l'accès à la transition chez les enfants. Elles sont aussi souvent en lien avec les mouvements abolitionnistes de gauche et ont pu être à des moments des alliées sur des luttes féministes autour des droits des femmes et de l'autodéfense féministe, ou sur d'autres luttes, notamment anticapitalistes ou de solidarité internationale. Alors le premier exemple que je vais prendre, c'est celui des groupes de lesbiennes radicales transphobes dans certaines manifs, et notamment à la marche des fiertés parisiennes de 2021. On ne sait pas vraiment qui elles sont. Elles ne s'affichent pas comme appartenant à une organisation, mais s'approprient en tout cas le terme de lesbiennes radicales. C'est pas facile de trouver des infos sur elles, mais ça serait une erreur de les confondre avec les transphobes de droite. Leurs discours sont pourtant tout aussi haineux, réac et tellement centrés sur les parties génitales. Leur but, venir provoquer et faire chier les militantes trans dans les manifs, voire chercher l'altercation physique en scandant des discours de haine envers les femmes trans essentiellement, puis passer pour des victimes des horribles transactivistes. Je ne vais pas plus m'attarder sur ces groupes car je n'ai pas plus d'infos. J'avais plutôt envie de vous parler de deux sites internet qui sont sûrement beaucoup moins visibles, mais qui produisent du contenu et de l'argumentaire transphobe et transmisogyne, qui servent ensuite à toutes les TERF, y compris aux TERF de droite, plus médiatisées pour défendre leur discours transphobe. Le premier, c'est le site radcamp.fr. C'est un blog sur le féminisme radical lancé en 2020 par Audrey Bach, qui se présente comme une activiste lesbienne et féministe radicale. Ce site prétend faire de la vulgarisation de concepts féministes et scientifiques, biologie et psychologie, et expliquer les notions essentielles de l'approche féministe radicale avec comme sujet de prédilection le droit des femmes, l'homosexualité et l'identité transgenre. Dans la réalité, elle développe sur son blog une obsession autour de la haine du queer, du danger de transactivisme et autour de l'abolition de la prostitution. En plus de textes sur les femmes trans qui seraient des violeurs voulant s'incruster dans des espaces réservés aux femmes, elle considère les transitions pour hommes trans comme une thérapie de conversion, ces personnes n'arrivant pas à assumer leur homosexualité. Elle instrumentalise aussi les quelques personnes qui détransitionnent, notamment avec la promotion de la journée internationale de visibilité de la détransition, dont on n'entend parler que sur des sites de TERF. En plus de cela, elle s'invente spécialiste de l'intersexuation en proposant un cours sur les bases de l'intersexuation, complètement affligeant en niveau de conneries, et finit par affirmer que des personnes intersexes voudraient que le I soit retiré du LGBTQI en s'appuyant sur l'opinion de on ne sait pas qui. Enfin, on y trouve aussi une soi-disant analyse du nombre de meurtres de la population transgenre en France et aux États-Unis, faite par elle et ses potes, basée sur des chiffres qui n'existent pas, puisqu'il n'existe pas de chiffres sur le nombre de personnes trans en France, et qu'à partir de là, tout est basé sur des estimations et des modélisations statistiques, donc rien. Mais ça lui permet quand même d'arriver à la conclusion que les personnes trans ont moins de risques d'être tuées que les autres. Bravo. Le deuxième site dont je voulais parler, c'est le site tradfem.wordpress.com, qui est un site de traduction de textes radical féministes anglophones en français. Ce collectif qui regroupe une vingtaine de personnes s'est monté en 2013 à la base autour de traductions de textes d'Andrea Dworkin. C'est un collectif mixte composé de membres dans différents pays européens, mais dont les deux membres les plus actifs sont deux mecs cis bien connus chez les hommes pro-féministes, puisqu'ayant traduit le livre Refuser d'être un homme de Stoltenberg. Il s'agit de Martin Dufresne et Yun L.Y. Ces deux personnes et leur site Tradfem ont pendant longtemps tout d'abord été identifiés comme la référence dans la traduction de féministes abolitionnistes contre la prostitution, la pornographie et l'industrie du sexe. Mais depuis quelques années, la lutte contre le transactivisme et les théories queer sont devenues leur deuxième combat. On trouve sur leur site toutes les traductions des textes de référence des théoriciennes gender critical anglo-saxonnes. Ça y va de la contagion genriste, l'idéologie transgenriste, l'épidémie d'enfants transgenres. Bref, on est vraiment très proche du discours complotiste sur plein de bouts. Sauf que ces personnes, en tout cas Yun L.Y., vient plutôt de la mouvance anarchiste et a été très présent sur les luttes sociales à Rennes. Et que derrière des titres provocateurs se cachent des textes qui servent de base argumentaire à de nombreuses terres de droite comme de gauche. En tout cas, que ce soit sur leur discours anti-prostitution ou anti-trans, ces personnes nous font flipper, de par leur discours très argumenté, mais aussi de par leur proximité avec plein de camarades anarchistes ou d'extrême-gauche.
Bon, merci pour cette petite boue, j'ai envie de dire. Bon, on va switcher un peu là sur, ou pas switcher, on reste bien sur les thèmes, mais comme on a dit, on a envie de voir un peu plus précisément leur argument. Et le truc est quand même bien qu'en fait, il y a toujours un peu le même 3-4 arguments qu'on retrouve qui se répètent. Bon, on va vous lire et voir un peu qu'est-ce qu'on pense ou de le démonter un peu, quoi. Un truc qui est un peu en deux parties, ça dépend de qui parle, de quel côté des terfs, mais il y a un truc qui disent les femmes trans sont des hommes déguisés en femmes, comme elles défendent une conception essentialisante de l'identité, comme on est une femme parce qu'on a les caractéristiques biologiques communément attribuées à une femme. Pour le résumer rapidement, je suis une femme parce que je suis née femme, parce que j'ai des seins et un utérus. Elle parle de sexe biologique en oubliant plusieurs choses. Déjà que toutes les femmes n'ont pas un utérus, il existe aussi des variations chromosomiques, biologiques, physiques qui ne permettent pas d'attribuer le genre féminin ou masculin. On parle alors des personnes intersexes. Bon, c'est un peu en parenthèse, mais tout ça sans parler plus de diversité de genre. Mais en plus, j'ai envie de dire quel argument de merde! Pour moi, c'est pas possible de se dire féministe en utilisant cet argument pour savoir avec qui faire alliance ou pas. Le même argument qui utilise des hommes cis depuis des siècles pour nous réduire sur ce qu'on a entre les jambes, pour nous exclure, réduire, minimiser. Ces prétendues ou réelles différences biologiques pour nous enfermer dans des rôles sociaux restreints. On ne naît pas femme, on le devient, j'ai envie de dire. Ou bon, pour moi, on n'est pas butch, on est déviant. J'ai envie de dire aussi, tout simplement. Et après, c'est pas bon. Ça, c'est des terfs qui sont plus sur qui parlent des sexes biologiques. Après, il y a aussi des terfs qui sont plus sur une qui dit les femmes trans ne sont pas des femmes parce qu'elles ont vécu toute leur vie en tant qu'hommes. Et si on a été élevé comme un homme, alors on bénéficie des privilèges masculins. Ou les femmes trans n'ont jamais vécu le sexisme. Alors j'ai envie de dire, ça sert à quoi ces privilèges masculins qu'elles profitent maintenant? Et ce qui est clair, c'est qu'elles subissent le sexisme comme toutes les autres femmes, ou si elles ont perçu comme trans, elles subissent la transmisogynie. Elles sont pareil exposées à des violences sexistes et sexuelles, et même souvent pires. Alors, déjà pour ces deux arguments, brah, ça ne marche pas en fait. Bon, voilà. Et on peut continuer. C'était mon petit speech. Si vous avez envie de rajouter des trucs, et sinon, on continue avec, avec l'autre, une de leurs autres arguments.
Moi, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire sur le privilège masculin dont on serait censé, dont on bénéficierait en étant des femmes trans. Moi, il y a plein de moments où je me dis, j'aimerais vraiment que cette terre fasse passer une journée dans ma vie où vraiment le privilège masculin, je pense que je l'ai perdu le jour où j'ai fait un coming out. Et que c'est juste, ça n'existe pas.
Alors, pour continuer, un de leurs autres arguments principaux, et ce qu'elles veulent combattre, c'est la facilité à transitionner aujourd'hui sur simple autodétermination. La facilité d'accès aux traitements hormonaux et aux opérations sans suivi psychiatrique, etc. Ceci étant valable, selon LE, pour les adultes trans, mais aussi pour les enfants qui seraient victimes de contagions transgenres. Le nombre de personnes trans et d'enfants trans ne cesserait d'augmenter par effet de mode dû à la propagande des assos transactivistes et de leurs alliés féministes. Alors, tout d'abord, on voudrait rappeler que les parcours de transition sont encore fortement encadrés en France. Que même si la loi de 2016 marque une avancée importante puisqu'elle marque la fin de la stérilisation obligatoire pour un changement d'état civil et le changement de prénom sur simple déclaration en mairie, dans les faits, il est toujours la plupart du temps nécessaire de fournir des pièces médicales pour le changement de prénom et pour l'état civil, les demandes passent devant le procureur et sont souvent compliquées. Concernant l'accès aux hormones et aux opérations, le parcours de soins était défini sur la base d'un suivi psychiatrique de 2 ans avant de pouvoir accéder au traitement hormonal puis aux chirurgies. Ce protocole est encore la plupart du temps appliqué par les équipes officielles, FPAT et l'ex-SOFECT. Et des personnes trans choisissent de prendre des hormones en dehors de ce parcours, donc dans le parcours privé, et d'effectuer des chirurgies à leurs frais, ou seulement en partie remboursées, puisque depuis 2004, il est légalement possible de bénéficier d'un remboursement de la sécurité sociale en suivant un parcours privé. Dans les faits, les CPAM demandent la plupart du temps ce qu'on appelle des ententes préalables qui obligent les chirurgiens et chirurgiennes à demander des attestations de psychiatres, voire d'endocrinologues. Alors maintenant, qu'en est-il de la contagion transgenre due au lobby transactiviste? Le nombre de personnes trans qui augmente n'est pas dû à un effet de mode. Les assos trans et alliés ont fait un gros taf d'accès à l'information. Internet et les réseaux sociaux ont rendu les informations accessibles au plus grand nombre et ça a permis à beaucoup d'entre nous de sortir de longues années de dépression, d'angoisse, voire d'envie de suicide. Mais ces parcours restent longs et loin d'être faciles. Ils entraînent souvent des ruptures familiales et amicales et surtout de l'isolement et de la précarité. Problèmes d'accès aux soins, au logement, au travail, etc. Alors croyez-vous vraiment qu'on prendrait tous ces risques pour juste suivre une mode? Concernant les enfants trans, pour avoir un peu des chiffres, il faut se tourner vers les équipes pluridisciplinaires officielles qui sont loin d'être des alliés, mais qui sont les seules à fournir des chiffres. À Paris, 2 équipes dites officielles et pluridisciplinaires se sont structurées depuis 2013 pour accueillir les mineurs trans. Elles ont en effet observé une augmentation des demandes d'accompagnement au fil des années, environ de 10 demandes par an il y a 10 ans à 10 demandes par mois aujourd'hui. En tout, ce sont 250 personnes qui ont été suivies par l'équipe de la Salpêtrière depuis 2013. Un chiffre relativement faible et non une épidémie. Même constat à l'EHPAD, qui est l'autre structure qui accompagne les enfants trans à Paris, qui reçoit 60 nouvelles demandes par an et où 300 mineurs ont été accompagnés. Le premier traitement médical intervient au plus tôt, au début de la puberté, avec des bloqueurs de puberté qui nécessitent une autorisation parentale, comme tout traitement prescrit à un ou une mineure. Réversibles, ces derniers permettent de mettre la puberté en pause en empêchant notamment l'apparition des caractères sexuels secondaires et en arrêtant la production d'hormones sexuelles. L'idée, c'est que comme après le début de la puberté, on sait qu'il y a 80% qui vont évoluer vers une identité trans, ça vaut la peine de limiter les transformations corporelles et l'angoisse. Parce que c'est à partir de l'émergence des signes de la puberté qu'il y a les risques les plus importants, à la fois de dépression, de risques suicidaires et de désocialisation. La prescription éventuelle d'hormones, testostérone ou œstrogène, est donc plutôt commencée à partir de 16 ans, respectant ainsi les recommandations de la Société d'endocrinologie internationale. Quant aux chirurgies, seule la torsoplastie est possible avant 18 ans. Pour ce qui est des autres interventions, il n'y a pas en France un chirurgien qui opère avant 18 ans en chirurgie génitale, ça n'existe pas. Se cacher derrière la protection des enfants pour combattre des droits pour les personnes minorisées, ce sont des méthodes connues utilisées par l'extrême droite et la Manif pour tous, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est toujours la même histoire, nous serions un lobby sectaire qui pourrait détourner les enfants du droit chemin des normes cis-hétéro-patriarcales. Mais bizarrement, on n'entend jamais leur voix se lever quand il s'agit de défendre le droit des enfants intersexes, qui subissent des mutilations et parfois des traitements forcés dès la naissance. Autre menace qui pèserait sur les mineurs et les jeunes adultes trans, le risque de détransition. Selon les équipes officielles, 80% des adolescents et adolescentes pubères ayant exprimé une transidentité la confirment à l'âge adulte. Sur l'ensemble des jeunes suivis par ces équipes officielles parisiennes, un seul a émis des regrets. Mais il y a en plus de 80% qui vont bien à l'âge adulte. Le bénéfice à accompagner ces jeunes reste donc indéniable. Ils vont beaucoup mieux que ceux qui ont attendu l'âge adulte pour pouvoir entamer leur transition, parce qu'ils se construisent dans le genre ressenti. Alors oui, quelques personnes détransitionnent, voire regrettent leur transition, il est important de les soutenir et les accompagner dans cette démarche, et non pas de les instrumentaliser pour pouvoir prouver tout et n'importe quoi. On n'a pas vraiment de chiffres sur le nombre de personnes qui détransitionnent, mais ce qu'on remarque, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui sont citées et que ces quelques parcours sont utilisés dans le jeu médiatique des TERF pour prouver que la transition chez les jeunes n'est pas assez encadrée et est dangereuse. Or, des personnes ayant détransitionné commencent à parler et à refuser cette instrumentalisation, en expliquant que pour beaucoup d'entre elles, ce n'est pas un retour en arrière rempli de regrets, et elles rappellent même que la principale raison qui pousse à détransitionner, c'est la pression sociale et familiale.
On va du coup écouter Tamiti qui parle dans la chanson 14 de comment elle se sentait quand elle avait 14 ans. Thank you.
aussi pris le temps d'essayer de capter c'était quoi la trame centrale qui nous fait bugger et qui revient tout le temps dans le discours des radfem, de ces lesbiennes radicales transphobes. On a appelé ça la rhétorique « monstre victime » et « sauveur sauvé ». C'est ces images-là qui sont toujours présentes, qu'elles parlent des personnes trans, de la prostitution, des effets du viol dans une vie ou des stratégies de prise de pouvoir par la sexualité. Dans ce monde très binaire de monstres victimes, sauveuses sauvées, pas de place pour les chelous, pour les nœuds, pour la complexité et la violence des ressentis, les rencontres qui font bouger et les solidarités mouvantes. Pas de place pour la force dans le magma et les zones grises, pourtant source si précieuse pour survivre, être, avancer ensemble. Leur discours est toujours autour de la centralité et de la puissance du patriarcat. Les personnes sont lues toujours d'abord en référence au patriarcat et classées dans un système de valeurs très fort, très clivé. Le viol est l'élément fondateur, clivant entre ces deux mondes, avec ceux qui violent, forcément, et celles qui sont violées. Un homme cis est un violeur ou un complice, une femme cis, une personne violée ou à risque constant d'être violée. Et bien sûr, qu'en tant que féministe, nous avons aussi comme analyse que l'utilisation massive des violences sexuelles et des différentes formes de la solidarité masculine pour maintenir la culture du viol sont un des socles majeurs de la domination patriarcale. Mais ce qui ne nous convient pas politiquement, c'est premièrement de faire du patriarcat la centralité de tous les systèmes de domination, surpassant tous les autres. Cela fabrique un positionnement rigide et qui produit de la silenciation sur les autres formes de domination, de classe et de race en premier lieu. En effet, il faut faire bloc avant tout contre le patriarcat. Il y a avant tout la solidarité naturelle, évidente, primordiale de ce groupe femme. Les stratégies de lutte avec les hommes cis à ses côtés sera d'une manière ou d'une autre décrédibilisée, forcément dangereuse, non réfléchie, non aboutie. Comme si les personnes n'avaient pas elles-mêmes les clés pour décider, pour agir. Le prisme de l'emprise mentale et matérielle des hommes est vu comme tellement puissant qu'elle est l'argument clé pour mettre de côté, infantiliser, celles qui se battent avec d'autres armes que les leurs. De même, nous n'adhérons pas à la rigidité de ce système de pensée, où les flous, les allers-retours, les conflits doivent être rangés, soit du côté du bon, soit du côté de l'égarement, voire encore du monstrueux. Il y a au choix les monstres, tous les hommes cis, les victimes, toutes les femmes cis, et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas à un endroit classique, les égarés qu'il faut sauver. Exemple. Les femmes trans, puisque porteuses d'un pénis ou ayant eu un pénis, sont lues comme des hommes cis. Ce sont des oppresseuses, dominantes dans le patriarcat. Ce sont forcément des monstres. N'importe quelle parole de femme trans sera d'abord examinée avec le présupposé qu'elles mentent, qu'elles sont malhonnêtes, veulent prendre le pouvoir, sont violentes, etc. Il n'y a pas d'écoute, de rencontre possible, pas de rencontre, pas de partage de vécu, pas de solidarité féministe possible. Les hommes trans, eux, sont lus soit comme des traîtres au patriarcat, à ce moment-là ce sont des monstres, puisque perpétrant la solidarité masculine, ou des personnes perdues, qui ont trop de misogynie intégrée et qui se sont égarées dans une stratégie mauvaise pour eux et pour la lutte. À ce moment-là, ils sont plutôt à sauver. En tout cas, leur parole est pareillement non entendue, puisque d'entrée de jeu, elle est lue comme ignorante, bête ou dangereuse, donc malhonnête. Il faut faire disparaître la richesse de ces histoires, de ces luttes et vécus spécifiques, se couper d'une partie d'entre nous. Le système s'applique aussi à toutes celles qui ont des stratégies vues comme déviantes, aliénantes, celles et ceux qui baissent trop ou mal, par exemple. Ou les travailleuses du sexe, qui réclament une reconnaissance de leur statut, ou encore des droits dans ce travail, ou qui revendiquent le fait d'avoir choisi ce travail, plutôt que de revendiquer l'abolition de ce travail. Elles sont lues comme des victimes, inconscientes, qui ne se rendent pas compte qu'elles subissent particulièrement la violence patriarcale et le reproduisent malgré elles. Il faut les sauver, coûte que coûte. Il faut les faire taire, en fait. Ce système de pensée, monstre, victime, sauveur et sauvé, perpétue une impossibilité de se rencontrer, de croiser les stratégies, d'écouter les lourdeurs complexes des histoires collectives et particulières. Cela crée une forme de totalitarisme, une pensée autoritaire. Nous ne pensons pas que cela puisse être un terreau révolutionnaire. Et pour finir, il faut rappeler que ce sont des discours de haine, certes fabriqués par des personnes qui ont payé un lourd tribut aux violences patriarcales, mais discours de haine quand même. Sauveuses, victimes, monstres, atteignent, blessent, détruisent, prennent une part de nos beautés féministes. Mais nos chants d'amour, qui célèbrent l'empathie, la prise de risque, les rencontres, la multiplicité, sont définitivement plus puissants et bien plus rigolos. Je vous en propose une pour nous toutes et tous, et que vivent les chansons d'amour, même si celle-ci n'est pas très rigolote.
Love is a self-made thing. I am free. I stare at the air and I see patterns. And your name is a song in my chest. The taste is metallic. How many billions walk this planet? I feel them. I feel them. You show me my mass. Love is an endless sky, an endless cliche that imagines itself to be deep revelation, an open face, an open palm, an open plane, all open. The more that we close it, the less that we know it. And just 'cause I know it, don't mean I know how to show it. They're taking everything from us and telling us nothing is ours, but here we are, dancing. You make me a microscope. You make me a map. I called it love. I should have called it trap. I trap you, I should have said tenderly, at the end of a long day, while we kept each other desperately stagnant. I trap you so much. Yes, I want you to be happy, but don't threaten my happiness. Can't you see? I'm walking this threadbare tightrope, made out of dental floss, stitched together with strands of tobacco and dog hair, and it stretches between two precious fantasies. My fantasy of me, and my fantasy of you. And beneath, in raging red-chopped razor teeth, states of fury of all my insecurities and all the little lies I like to tell myself and every other reason that I can't see the truth. I trap you so much. I should have whispered in your ear as we fell asleep, bodies unbound, sheets soaked, hearts hammering. If I see it clear, will it stay clear? Will it be clear when you're here? I don't want fear, I don't want greed, I want freedom, I want to be freed. I want you to be freed, I want to nourish. I don't want to feed like some ravenous mouth with no guts, only greed, endless appetite, need, need, need. You can't free me, I breathe. If I am in pieces, is it easier to see? I think I am whole now. I think I am more whole. But I still check my phone 17 times a minute to see if you called and I missed it. Trap. Love is a self-made thing. Love is a self-made trap.
Et c'est Kay Tempest qui vient de nous offrir avec notre camarade qui l'a proposé cette belle chanson d'amour sur Radio Dio 89.5 ainsi que radiodio.org. Et je voulais juste rajouter avant d'enchaîner qu'il y a une ambiance très émo dans le studio et qu'on est assez contente et fière et on s'offre de l'amour avec cette émission. Alors voilà, moi qui observe tout ça, je voulais le partager avec les gens qui nous écoutent.
Et justement, dans cette ambiance un peu émo, où j'ai l'impression qu'on est tous brassés à plein d'endroits différents et que ça fait à la fois du bien, à la fois ça brasse plein de choses, on va continuer sur une petite discussion un peu entre nous sur... Bon là, on vient de parler des mouvements TERF, d'où ils viennent, de pas mal de choses. Mais en fait, dans tout ça, on va un peu avoir une discussion sur comment on arrive sur de l'autodéfense, sur comment on se dépatouille de tout ça, comment on ne cède pas à la panique, comment on arrive à trouver un peu des outils pour avancer et lutter contre ces TERFs qui sont que des personnes en plus contre qui lutter. Hein. Voilà.
Bah, moi, je veux bien... Moi, j'ai l'impression que quand on a eu ces discussions-là, que déjà, une manière assez importante de lutter, c'est toujours... Enfin, en tout cas, c'est d'arriver justement à avoir des discussions collectives, de mettre sur la table les trucs qui nous traversent quand c'est dur. Et moi, je trouve qu'à plusieurs personnes, on arrive justement des fois à avoir le petit pas de côté, de dire « Ah, mais attends, on va regarder d'où elles viennent. » Enfin, moi, je trouve vraiment là, ce truc de discuter de force collective, il est... Enfin, c'est peut-être idiot de le dire, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est hyper précieux, quoi, de se dire qu'on peut s'apporter... parce que justement, des fois, il y a des moments où on est dans l'émotion et qu'on a besoin de la vivre et qu'on a besoin d'écoute à ce moment-là. Et puis, il y a d'autres moments où on a besoin de gens qui nous disent « Ah, mais attends, regarde, on va décortiquer le truc et tout ça. »
Aussi, quand on a discuté, alors nous, c'est pas trop notre manière de lutter, mais en tout cas, ça nous paraissait important qu'il y ait des personnes qui le fassent et de soutenir ces initiatives-là qui sont de prendre de la place dans les médias. On a parlé notamment des différentes tribunes qui sont sorties en réponse aux attaques TERF ces derniers mois, et notamment de la tribune qui est sortie sur
l'Alliance.
Ouais. Alliance trans et féministe, du coup, et qui est, moi, je trouve, une bonne réponse, et aussi qui a été signée par plein de personnalités féministes et politiques. Et voilà, donc je pense, en tout cas, ouais, ça fait occuper un peu la place et avoir des réponses aussi dans les médias et sortir aussi des images plutôt habituelles des personnes trans dans les médias qui sont juste des personnes qu'on montre comme souffrir. Enfin, voilà. Du coup, la lutte aussi, quelle est sa place dans ces espaces-là.
Et puis, j'ai l'impression que cette tribune, ça a été aussi l'occasion justement d'aller montrer l'alliance entre les luttes féministes et les droits trans. Et comme tu disais, là, d'aller chercher aussi des personnalités de féministes cis pour dire, bah, là, il faut se mouiller, il faut s'afficher aussi dans cette lutte transféministe, quoi.
Et ce qui m'a fait plaisir sur cette tribune, c'était de voir que... Enfin, pour moi, c'était un peu renvoyé aux TERF qui pensaient avoir les féministes derrière elles, de se prendre une claque dans la gueule. Non, vous êtes suivi par personne, en fait. Et notamment, moi, il m'a semblé, quand j'ai lu l'appel au mouvement femelliste, qui a l'air horrible, de Stern et Mouto, où à la fin, elles ont... La manière d'écrire, ça sentait qu'elles essayaient de s'inspirer un peu de Despentes. Et en fait, bah, Despentes, elle a signé la tribune Alliance trans et féministe. Et donc, elle vous a inspiré, cette personne, vous voulez la ramener vers vous, mais elle ne vous suit pas. Et ça, je trouve que c'est hyper important à avoir en tête. Que, oui, et autant elles ne sont pas suivies, et autant nous, dans nos luttes trans, on est soutenus par des féministes.
Ouais, et puis que c'est, comme tu l'as dit au début... c'est pas nos moyens classiques de lutte, là, d'aller se dire on va prendre la place dans les médias, mais aussi quand on a eu la petite discussion entre nous, on s'est dit bah ouais, mais aussi elle l'occupe tellement, et que quand même le pouvoir de la propagande et de la propagation des idées, il est hyper important, et que du coup moi je trouve de soutenir ces idées là et qu'après ça peut être avec ces tribunes là mais c'est aussi prendre la parole tout simplement quand il y a des rassemblements, quand il y a des manifs, de prendre un temps, de prendre le micro et de se dire ça vaut toujours le coup dans n'importe quel événement féministe d'aller faire un petit blabla, quoi, sur nos alliances, ce qu'on défend, etc., quoi.
Bah, oui, moi je pense que, en tout cas, ce qui est important, c'est la solidarité trans et féministe, et du coup qu'elle s'exprime partout et par n'importe quel moyen, que ce soit dans les manifs, dans les médias, et partout ailleurs, enfin dans les rassemblement féministe et tout ça, exprimer cette solidarité avec un discours assez clair aussi sur la place des personnes trans et sur le fait de soutenir les personnes trans aussi dans leur demande de toujours plus de droits et tout ça.
Moi aussi. Ah, il marche plus ? Si, il marche. Je veux dire, c'est pas pour moi seulement aussi dans les manifs de rassemblement et tout, c'est aussi dans tous les trucs qu'on organise, en fait, qu'on fait déjà, je dirais, mais je trouve un truc plus important, en fait, d'afficher avec qui t'organises. Féministe, ça veut dire quoi pour toi, quoi, ou pour moi, comme tu dis, de trans et féministe, quoi. Oui, en fait, c'est un combat ensemble, quoi. Et pas, il y a les féministes et les trans, et de s'afficher plus là-dessus, quoi.
Et là, j'ai envie de prendre la parole en tant que meuf trans aussi, aux Alliés 6. N'attendez pas qu'on soit là pour parler de nous, pour parler de nos droits, pour parler de nos luttes. Elles sont très, très similaires. Et attendez pas que ce soit la seule personne trans du rassemblement de prendre la parole. Ça nous fait aussi du bien d'exister sans avoir à se visibiliser et de se mettre aussi en danger en se visibilisant individuellement. Et vraiment, moi, je crois vraiment à l'offensive collective, enfin une offensive défensive, je sais pas, en tout cas une lutte collective, et pas demander à des personnes individuellement. Et ce qui est souvent le cas des personnes trans, notamment des petites manifestations ou en campagne, où on n'est pas nombreux et nombreuses, d'avoir ce rôle-là, de porter nos voix, nos droits, nos discours, mais faites-le même si on n'est pas là.
Après, il y avait aussi le truc qu'on s'est dit, ou que j'ai envie de dire, parce que toi, tu as parlé avant aussi, comment c'est important les assos trans, qu'ils ont fait quand même avancer pas mal des choses, et de aussi penser à ça, à soutenir les assos ou les accès aux soins.
Ouais, et une des manières de soutenir les assos trans, par exemple, moi, pour les personnes... qu'on détune, ou pour les personnes qui ont envie et l'énergie pour organiser des événements de soutien, en fait, il y a plein d'assos trans à soutenir. Il y a le FAST, le Fonds d'Action Santé Trans, qui soutient les personnes trans précaires.
Le Front Transfemme, qui cherche toujours de l'argent aussi.
Le Flirt.
Enfin, c'est le Front Transfemme, le Flirt, c'est les mêmes.
Ouais. Accept ST, qui aussi, je pense, a toujours besoin d'argent. Enfin, du coup, je pense qu'il y a plein d'initiatives aussi de personnes trans à soutenir.
XY Média, le média transféministe qui s'est créé il y a un an et demi maintenant.
Soutenir le reste aussi.
Le reste, le réseau de santé trans. Enfin, voilà, il y a du monde à soutenir. Il y en a, des gens qui ont besoin de thunes, il y en a. Du coup, allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'ai envie de rebondir un peu sur autre chose à moins... Non. juste dans on n'en a pas trop parlé en amont, mais dans les trucs de lutte collective, moi que je trouve un peu important, c'est un outil qui est utilisé depuis longtemps dans le milieu féministe, mais en fait c'est des moments de mixité choisie entre personnes trans où moi j'ai découvert cet été, il y a eu un week-end transfemme qui s'est fait et c'était un peu au moment où il y avait les offensives TERF qui étaient un peu vénères, et on s'est retrouvé à 50 personnes transfemmes pendant un week-end ensemble. Et juste, on n'a pas parlé des TERF. Et c'était super, c'était trop bien. Et ça fait vraiment du bien, ces espaces-là aussi. Ça peut être des espaces où on décortique des choses, mais c'est juste des espaces aussi où on peut exister et vivre sans se poser de questions. Et pour moi, ces espaces-là, ils sont super importants. Mais de toute façon, les espaces mixtes choisis, ils existent depuis longtemps. Et c'est un outil vraiment à ne pas oublier.
Après, je ne sais pas si il y en a d'autres entre vous qui voulaient dire une chose. Parce que sinon, on a eu encore un petit truc, si je me rappelle bien, qu'on a eu envie de dire. Comme là, avec cette émission, on a eu envie de vous expliquer un peu plus les trucs sur des TERF, tout ça et tout. Et alors de montrer qu'il y a quand même une bonne concept politique et un propos d'haine derrière... derrière ce concept des TERF, et qu'on a envie de dire aussi que de faire un peu attention, qu'il y a quand même ce truc de plus en plus aussi dans notre milieu, que ça arrive de l'accusation de TERF d'une personne qui a fait un propos transphobe ou qui a sorti une phrase transphobe. Et de aussi dire d'être c'est pas pareil, et c'est aussi le truc à discuter, faire.
Bah, moi je trouve que c'est effectivement qu'il y a, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est effectivement de dire c'est pas parce que c'est toujours à dénoncer quand même et à reprendre avec la personne quand il y a un propos transphobe. Après, effectivement, que l'utilisation de TERF, et si ça s'assimile à un équivalent de, du coup, cette personne-là est plus valable nulle part, ça fait pas beaucoup de sens politique, parce que, comme tu dis, c'est, est-ce que cette personne-là est clairement dans des stratégies d'exclure de façon systématique les personnes trans, etc. C'est pas la même. Mais je trouve aussi que c'était pas forcément des fois sur le fait que des personnes aient des propos transphobes, mais c'est que aussi des fois tu peux avoir des conflits, tu peux aussi avoir des manières de lire le monde. Enfin, je veux dire, ça brasse. Enfin, on a bien vu là quand on s'est coltiné au truc sur la lecture matérialiste, la lecture nanana, le, tout ça. Que des fois, ça peut faire aussi qu'on construit notre pensée, que des fois, il y a des moments où on est un peu flottant, on sait pas trop, et que ça veut pas forcément dire que t'as un propos transphobe, mais que tu peux être sur des lignes qui sont à clarifier, et que du coup, d'utiliser le mot TERF, ça fait comme un mode de silenciation du conflit ou du débat, et que bah, ça fait que de renforcer nos ennemis, en fait, quoi. Parce que ça crée de la discorde entre nous, et ça fait comme, ah, on n'a pas le droit de discuter, etc., quoi.
Oui, et puis on parlait tout à l'heure d'alliance trans et féministe. Enfin, pour moi, cette alliance, c'est important. Moi, je pense que quand on est trans, on peut clairement être féministe, mais qu'il y a vraiment un truc qui va dans les deux sens aussi. Après, des fois, c'est dur de se prendre des réflexions transphobes dans la gueule. On peut réagir un peu violemment, mais ne pas forcément... Enfin, voilà, je ne vais pas répéter ce que vous venez de dire.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait... J'ai l'impression que ce qu'on a essayé de montrer aussi dans cette émission, c'est que les TERF, c'est des mouvements politiques organisés avec un argumentaire et des stratégies et tout ça, avec des alliances avec l'extrême droite ou en tout cas des stratégies parfois complotistes et tout. Et que pour moi, c'est pas la même chose de dire à une personne ce que tu viens de dire, c'est transphobe, parce que c'est important de continuer à le faire et de traiter les personnes de TERF et stop, la discussion, elle s'arrête. En fait, bien sûr qu'il faut continuer à réagir aux propos transphobes et que ce serait bien à plein de moments que ce soit pas que les personnes trans aussi qui réagissent, mais que peut-être faire la différence entre des propos transphobes et des mouvements politiques organisés, quoi.
Et je crois que ça me donne envie de rajouter un peu une dernière chose en ayant travaillé sur cette émission-là, en ayant passé du temps, où je m'étais déjà retrouvé à passer pas loin de 10 jours à travailler aussi sur ce sujet-là, comme je le disais au début de l'émission. Moi, je vois à quel point ça brasse personnellement, ça vient toucher des trucs forts, et je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Mais en fait, c'est un peu m'adresser aux alliés 6, à des moments d'être présent et présente, parce qu'en fait, tous ces sujets-là, ça vient toucher des points qui vont être durs. Enfin, là, je sais qu'il va me falloir plusieurs jours pour me remettre de ce travail-là. Et du coup, ça me va de le faire à certains moments, mais merci beaucoup de prendre le relais à certains moments aussi.
Et que pareil, moi, enfin, pas pareil, mais que sur les autres... Enfin, je trouve, moi, ça me renvoie aussi à comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on se donne des différents temps de réaction en fonction du moment où est-ce qu'on... Bah, déjà, de qui est-ce qu'on est au niveau point de vue situé, mais aussi de où est-ce qu'on en est à ce moment-là de notre life, quoi. Et je pensais par rapport à... On avait un peu envie aussi de causer de réactions en manif, et du coup, de dire, bon, alors, on sait que potentiellement, c'est déjà arrivé, ça peut réarriver que dans des manifs féministes, ça soit un moment stratégique pour que les TERF décident d'y aller et de sortir des pancartes particulièrement dégueux et d'affirmer leur position transphobe. Et que moi, j'ai l'impression qu'un peu de ce que j'en ai ressorti des discussions, c'est qu'en tout cas, c'est toujours bien de faire gaffe à... la réalité locale de là où t'es, parce que des fois d'être dans la confrontation directe, et ben ça marche pas, parce qu'il se trouve que ces personnes-là, en fait, c'est elles qui ont accès à telles ressources, et que du coup, des fois t'as juste envie de réagir un peu de façon brute, et qu'en fait ça marche pas, ça pète un truc. Enfin, en tout cas, moi, de faire gaffe à la réalité locale, après de pouvoir pourquoi pas se faire des prises de parole collectives en début de manif en disant « Eh, on est dans une ville où régulièrement il y a des gens qui vont sortir ce genre de pancartes, c'est ok d'y aller avec tel mode d'action. » Enfin, en tout cas, que ça puisse être anticipé, quoi.
Le plus possible, et puis faire attention à d'où on part aussi, je pense, dans les réactions qu'on a. Moi, je crois que personnellement, j'ai pas du tout envie de condamner les réactions violentes qui puissent arriver, parce que je vois très bien les effets que ça peut faire d'avoir des propos transphobes quand on est trans. Par contre, je dois avouer que les réactions violentes de personnes cis sur des propos transphobes me questionnent beaucoup sur la retombée qu'il va y avoir derrière, qui vont pas leur retomber sur ces personnes-là, où je trouve qu'il y a un article qui est assez bien dans XY Media, dont on parlait tout à l'heure, qui est une lettre écrite par une travailleuse du sexe trans à ses alliés cis suite justement à une altercation par des personnes cis qui sont allées jeter des œufs sur Marguerite Stern. Et moi, je trouve ça hyper... Il y a un côté que je peux trouver chouette dans cette action-là, et en même temps, attention d'où on part et qu'est-ce que ça va impliquer pour d'autres personnes, et qu'est-ce que ça va pas nous impliquer dedans. Enfin, voilà, c'est pas très clair.
Si, c'est clair. Je trouve seulement c'est presque un thème pour une autre émission de c'est des trucs de violence ou réactions. Violence et qu'est-ce que ça peut faire du bien ou pas.
C'est un
mais
projet
peut-être...
d'émission qu'on a depuis
voilà,
longtemps, je crois.
C'est vrai, on a eu la cette violence. Envie. Mais ouais. Peut-être, on se rapproche gentiment du fin. Et ouais. Je ne sais pas s'il y a un petit agenda ou sinon, on vous souhaite une très, très bonne soirée.
Je crois qu'il y a un
petit... Moi, j'ai un petit agenda à partager.
Vas-y, sors-le.
Alors, jeudi 10 novembre, à 18h à la Cale, 16 rue Royer, il y a une discussion à propos de la création d'un hackerspace féministe. Donc on espère que c'est un hackerspace transféministe. On espère très fort qu'il y a des gens qui écoutent l'émission. Dans tous les cas, voilà. Ça a l'air d'être chouette quand même. Voilà. Ensuite... un autre truc, mais il faut que je change de page sur l'ordi. Alors attention, j'ai besoin d'une petite musique d'attente.
Ou en attendant, moi je vais dire autre chose. Jeudi, j'ai plus l'heure précise. Je pense que c'est 11h. Il y a les manifs syndicales contre la précarité, il me semble, qui ont toujours lieu. Et il n'y a pas eu d'appel à cortège transpédéguine pour l'instant, mais ça ne saurait tarder a priori. C'est le départ à Château-Creux cette fois, il me semble. À vérifier tout. Pour le coup, c'est des trucs que je dis de tête, à vérifier toutes ces informations là.
Vendredi le 11 novembre, si vous voulez manger des pizzas, vous pouvez. Alors, j'ai pas le numéro pour commander en tête, mais il y a les infos sur le numéro 0. Et du coup, c'est des pizzas à emporter, végétariennes ou véganes. Et c'est en soutien à Alarmphone. Et Alarmphone, c'est une ligne téléphonique d'urgence pour les personnes qui traversent la mer Méditerranée et la Manche. Voilà, et qui sont en situation de détresse.
Ouais, et puis voilà, dans l'agenda, tous les jours, la révolution transféministe, tout ça.
C'est
quoi.
Pas lundi, mercredi, vendredi.
Ah si, c'est vrai que on avait acté que c'était que 3 jours sur 7.
C'est trop. Ouais.
Enfin bon, chacun fait comme il veut là.
Et alors c'est un peu plus loin, mais je crois qu'on n'aura pas fait notre émission d'ici là du coup. Le 18 novembre, à la Gueule Noire, 16 rue du Mont, de 18h à minuit, il y a une super soirée avec la présentation d'un bouquin...
Cornelia Moser, ça. Je ne sais pas comment il s'appelle par contre.
C'est un truc comme avec, sans ou contre l'État.
Queer et féministe avec, sans ou contre l'État, qui sera suivi d'un concert de Flo Mekoyanski, Anne Arco Sylvestre, ainsi qu'un petit DJ set de DJ Prolop. Venez, ça va être super.
Ok, et si jamais il y a des bénévoles de Radio Duo qui nous écoutent et qui auraient oublié, demain soir à 19h, il y a l'AG de la radio.
La Cale,
du Credrock.
Venez
nombreux
et nombreux.
Le CA est fatigué.
Et que vive Radio Duo.
Et est-ce qu'on finit tout ça en écoutant une petite musique de Mauve, rappeuse trans grenobloise, et on va écouter Désastre.
et bonne soirée.
Gros bisous, bonne soirée à tous et à tous.
Bonne soirée.
Casquette, Penbury, Strass et Flamme. Qu'est-ce qu'est homme ou femme? Check l'étiquette, sorry j'ai la flemme. C'est quoi ces normes infâmes? J'ai perdu mon flegme. Nous sommes les Danes et les Kidam ou les Kidanes. C'est monsieur, c'est madame, des rôles qui condamnent. Levons nos doigts, voilà l'occasion. Pour faire entendre les moins loquaces. Vida loca, comme chien d'acasse. Parce qu'on ne rentre pas dans vos cas. Sortir de l'impasse, foutez-nous la passe. Brisons l'opacité, faites place. Entités de l'ombre, identités qui ne se dénombrent. Étoiles filantes dans la pénombre. Libre de choisir leur prénom, de choisir leur pronom. Unique et rare, des êtres à part. Penses-tu que je rappe par hasard? Je souhaite qu'on brille dans le blizzard. High kick dans le bazar. Que se répande le bizarre. Que se répande le bizarre. Danse des astres. C'est la danse des astres.
Danse des astres. C'est la danse des astres. Danse des astres. C'est la danse des astres.
Binaire est à bégère, la mère patrie une ville bergère. Que des moutons ils ne vénèrent, trop d'oppression ils génèrent. La peur les morts qui fédèrent, souvent besoin de changer d'air. Ce sont d'infantiliser, on veut nous utiliser. Nous gardent de tranquillisants, besoin de fertilisants. Toutes les remarques enquillées, parce que j'aime me maquiller. J'aimerais pouvoir m'habiller, sans les écouter m'habiller. Bla 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 bla, faut déjà oser. Ce n'est pas aisé, sans stresser, sans choper la nausée, la crainte de finir adossé, cabossé sur la chaussée. Un sourire forcé, tous ces gens qui abusent. Je mâche mes doutes dans ma caboche, puis cache mes boucles dans ma capuche. Le cul entre deux chaises, est-ce que t'as capiche? Je ne suis pas supporter. Je me assise par terre. Dans ce désastre. C'est la danse des astres.
Danse des astres. C'est la danse des astres. Danse des astres. C'est la danse des astres.
Diversité des corps. L'adversité dans le décor. Paraît que ça soigne dans des cures. Dans leur tête, ces corps, on est des malades, c'est sûr. Pour s'assumer, on est souvent insécure. Et oui, maman, je suis un de ces queer, tu comprendras. Un de ces quatre, si ton amour est insécable, la question est indéniable. Oui, la vie se déroule, arrêtons de jouer des rôles. Libérons la parole et rendons l'appareil. Mais stop, les stop, avec ce foutu prénom, je veux du desktop. Dead name, c'est non. Fuck, il me fait de l'ombre. Chevalier, j'étais un félon. Allez, viens, on refait le monde. Non, je ne suis pas ton garçon. Pourquoi tu te morfonds? Viens ensemble, marchons. Il le faut, y'a pas 36 façons, y'a pas de faux, pas de contrefaçon. Et fuck la cicatrisation, le flow, ma cicatrisation.
J'ai peut-être crevé l'abcès.
J'ai peut-être crevé l'abcès.
Je reste moi, s'il te plaît, accepte.
S'il te plaît, accepte.
La route me bloque déjà des accès.
Déjà des accès.
Et ma planète est des accès.
Vous venez d'écouter une rediffusion de l'émission « Pour une alliance transféministe contre les terres » de l'équipe « Comme un ouragan » sur Radio Dio à Saint-Étienne. Cette rediff était proposée par le gang des Gazières et ça fait boum, car le discours TERF prend de plus en plus de place sur les médias, y compris les médias alternatifs. Faisons front contre ces discours de haine. Pour une révolution transféministe. Retrouvez le Gang des Gazières le premier mercredi du mois, 20h-22h, sur le 884. Et Ça fait boum, un de ces prochains dimanches à 21h. Bonne soirée!